Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Vous êtes sur Fréquence Mistral, bienvenue si vous nous rejoignez. Au programme de ce magazine, la préparation de la Journée internationale des forêts, puisque en 2011, suite à l'année internationale des forêts, l'Organisation des Nations Unies a souhaité instaurer une journée mettant les forêts à l'honneur. C'est donc le 21 mars qui a été proclamée Journée internationale des forêts. Partout dans le monde sont organisés des événements pour protéger, valoriser et célébrer les forêts. Les équipes de l'ONF se mobilisent sur le territoire pour vous proposer des activités pleines de surprises et de découvertes. C'est le moment idéal pour découvrir la vie de la forêt, échanger avec les forestiers passionnés par leur métier et discuter des grands défis écologiques et climatiques actuels. Et pour nous parler justement de son métier, mais pas que, l'invité de ce magazine, eh bien c'est Camille Loudin-Hamon. Bonjour et bienvenue dans le studio de Fréquence Mistral.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous.
Alors, vous êtes responsable de l'unité territoriale de Sisteron à l'ONF et vous venez nous parler aujourd'hui de ce que les équipes proposent du 19 au 28 mars avec un programme donc riche et varié destiné à tous les publics.
Oui, c'est bien vrai. Alors, il faut savoir que la forêt, c'est quand même un élément absolument essentiel finalement de nos vies et de nos paysages. Puisqu'on est, on est en France, on a la chance d'avoir un fort taux de boisement. On a tendance à l'oublier, mais la forêt en surface, elle a quand même doublé en 2 siècles. Donc elle est très présente autour de nous. Donc elle avait bien droit à une belle journée internationale des forêts qui est officiellement le 21 mars. Mais du coup, on peut faire des animations autour de cette thématique-là sur les 10 jours autour dont vous aviez pu parler. Donc partout en France, on peut partir à la découverte des forêts, des forestiers, quand on n'a pas toujours l'occasion de croiser dans la vie courante, et puis poser des questions et en apprendre plus sur les forêts. Petit rappel peut-être de ce que c'est que l'ONF. L'ONF, c'est un établissement public, l'Office national des forêts, ONF. On s'occupe particulièrement, on est le gestionnaire des forêts publiques. À savoir que les forêts publiques dans l'Hexagone, c'est 25% des surfaces forestières. Les 75% restants appartiennent à des propriétaires privés individuels ou en indivision. Et du coup, nous, à l'ONF, on s'occupe vraiment spécifiquement des forêts publiques qui peuvent être soit des forêts de l'État, qu'on a l'habitude d'appeler des forêts domaniales, du domaine de l'État, soit des forêts communales, donc des forêts qui appartiennent au domaine privé de la commune. Et on accompagne, c'est le code forestier qui régit notre action pour gérer ces forêts-là. Et donc du coup, sur l'ensemble de la France, peut-être pour vous faire un petit portrait des forêts en France, déjà il y a quasiment 26 millions, 25,8 millions d'hectares de forêts. Alors j'y inclus dedans les forêts outre-mer, qui font 8,2 millions d'hectares. Donc c'est très important. Bon, on l'imagine assez facilement avec la Guyane, par exemple. Les forêts, on a des forêts tropicales. Et puis, en France hexagonale, on est à 17,6 millions d'hectares de forêts. Donc, quand je disais que c'est quand même très présent, c'est, voilà, on est à 32% de taux de boisement en France hexagonale. Et du coup, l'Office national des forêts gère près de 11 millions d'hectares entre l'Hexagone et l'Outre-mer et va proposer, dans le cadre de cette Journée internationale des forêts, des actions pour découvrir quel est notre rôle au sein de ces forêts, qu'est-ce qu'on y fait. Ça, c'est parfois un peu mystérieux, ce que font les forestiers, les traces parfois qu'ils laissent en forêt aussi, qui sont des guides en fait de la gestion, une vision de la gestion concrétisée en forêt. Et puis, on va pouvoir aussi faire découvrir la biodiversité qui est présente en forêt, qui est souvent voilà, peu visible ou peu connu. Et puis avoir des actions là, qui sont ouvertes à tous les publics, y compris les publics familiaux.
Alors, il y a beaucoup d'animations qui sont prévues du 19 au 28 mars. Peut-être qu'on peut un peu se resituer également, parce que voilà, c'est un événement, la journée est internationale, il y a des événements partout en France. Mais là, vous venez plus particulièrement nous parler de ce qui va se passer dans le département des Alpes de Haute-Provence. On va parler un petit peu des Hautes-Alpes aussi.
Oui, alors on a la chance cette année, sur les Alpes de Haute-Provence, on est très présent, on propose énormément d'opérations dans la forme et dans les dates. Donc du coup, ça laisse plein d'options pour les gens pour participer à l'une ou à plusieurs des opérations et des événements de cette année. Donc il y a par exemple, qui commence le 19 mars, côté Hautes-Alpes, à Guillestre, un ciné-conférence avec la projection du film Le Chant des Forêts de Vincent Minier, avec la projection et puis des échanges derrière pour avoir les points de vue aussi du forestier avec. Le jour même du 21 mars, le jour officiel de la Journée internationale des forêts, on a plusieurs opérations. Notamment, on en a à Seyne-les-Alpes, avec une visite ouverte au public et accompagnée par un agent de l'ONF pour aller découvrir une coupe qui a été réalisée. Pourquoi est-ce qu'on coupe des arbres ? Pourquoi ça a été fait ? Comment on a choisi les arbres qui devaient être coupés ? Comment ça s'est réalisé ? Donc ça, c'est l'occasion vraiment de voir le métier du forestier au plus proche de l'arbre. Et donc, vous pourrez faire ça du côté donc, de Seyne-les-Alpes. Côté de Digne, au Cousson, vous avez également une randonnée commentée, avec une balade qui est accessible et puis avec des temps le long de la balade, des temps d'explication réalisés par quelqu'un de chez nous à nouveau. Donc ça, c'est voilà aussi, encore une fois, l'occasion de concrètement se rendre compte de ce qui se passe en forêt. On a à nouveau sur Digne une opération « Deviens ambassadeur de la forêt ». Le 22 mars, c'est du côté de Manosque que ça va se passer, avec une journée découverte en forêt communale de Pélissier, au niveau du col de la mort d'Imbert, pour ceux qui connaissent bien Manosque. Et là, c'est pareil, des balades, des activités de jeune nature pour petits, pour les grands. Voilà, quelque chose à nouveau de très familial. Et puis, pour le coup, pour ce qui concerne mon secteur plus particulièrement, ça va se passer dans la forêt du Mollard, la forêt communale du Mollard à Sisteron, qui est aux portes de la ville, vraiment. Et on va faire un petit jeu de piste pour les familles, avec une petite chasse au trésor, un petit jeu de piste avec des petites énigmes, des choses comme ça. Et entrecoupé, vous allez pouvoir avoir deux ateliers ludiques avec des forestiers. Un atelier pour apprendre à découvrir les espèces d'arbres, parce que c'est souvent par là que ça commence. Comment on reconnaît les arbres et pourquoi est-ce qu'ils sont à tel endroit ? Parce que, en fait, n'importe quel arbre ne pousse pas à n'importe quel endroit. Et puis, un atelier également sur les outils du forestier. Donc, vous pourrez découvrir ce que c'est qu'un compas forestier, qui n'a pas grand-chose à voir avec le compas qu'on met dans sa trousse. Vous pourrez découvrir comment un forestier, quels sont les outils qu'un forestier utilise au quotidien pour gérer la forêt. Et puis enfin, le 28 mars, vous avez du côté de Saint-Pons une visite commentée à nouveau en forêt communale. Donc avec là, plutôt des questionnements dont on avait déjà parlé à la précédente émission sur comment on adapte les forêts au changement climatique, notamment comment on intègre des espèces, comme pourquoi on plante des espèces qui soient plus adaptées au changement climatique pour, voilà, on va dire, multiplier les œufs dans le panier en cas d'aléa. Donc ça, ce sera l'occasion de le voir sur le terrain, ces plantations-là. Et enfin, à Torambas, toujours le 28 mars, une journée découverte, à nouveau, une chasse au trésor. Donc voilà, vraiment, vous avez la gamme de tout plein d'événements pour découvrir la forêt avec des forestiers vraiment qui la vivent au quotidien, quoi.
Et on remarque que ce sont des animations, des événements qui sont ouverts à tout public. Hein, ce n'est pas uniquement que pour les enfants ou que pour les adultes.
Tout à fait, tout à fait, c'est tout public. Alors par contre, je vous conseille très fortement de vous inscrire parce que la plupart sont sur inscription pour pouvoir... en fait, le nombre de personnes est limité pour que ce soit agréable de pouvoir échanger et, lors des balades ou lors des jeux de piste. Donc voilà, il y a un site internet vous retrouvez ça sur le site de l'ONF, ONF Vivre la forêt, les activités de la GIF 2026, mais vous pourrez le retrouver sur, je pense que vous en ferez...
Bien sûr, on mettra le lien en partage sur l'article consacré à cette émission.
Super, c'est gentil. Et du coup, vous verrez dedans, à chaque fois, il y a un petit lien pour s'inscrire spécifiquement à chacun des événements. C'est fortement conseillé. Voilà.
Et oui, vous avez parlé de la GIF, Journée internationale des forêts. Donc là, on détaille le programme pour les activités du 19 au 28 mars, plutôt sur le 04 et 05, mais il y en a partout en France. Et j'imagine que l'ONF n'intervient pas uniquement à l'occasion de cette Journée internationale des forêts, mais que vous êtes présent sur aussi d'autres événements, à d'autres occasions.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que couplé, en fait, à la Journée internationale des forêts, il y a un dispositif national aussi qui s'appelle « La forêt s'invite à l'école », qui permet à des professeurs des écoles de demander des interventions de forestiers. Ça se passe au niveau national, puis ensuite, ça redescend en territoire avec les sollicitations. Et il y a un kit pédagogique qui accompagne aussi ce travail-là. Puis on a aussi, de manière générale, on essaie d'offrir aux forêts communales, enfin aux communes qui ont des forêts, la possibilité d'avoir au moins une intervention auprès des écoles si elles le souhaitent, si elles en font la demande. Et il y a aussi un partenaire qui sont les communes forestières, l'association des communes forestières, qui ont un dispositif pédagogique aussi qui s'appelle La forêt fait école. Donc vraiment, s'il y a des professeurs des écoles qui sont intéressés ou même les niveaux au-dessus, c'est possible de monter des projets. Alors on ne peut pas évidemment le faire tous les jours avec tout le monde, mais c'est tout à fait possible et c'est l'occasion d'expliciter aux plus jeunes aussi qui sont la relève comment ça se passe. Et puis pour à nouveau un public plus large, par exemple, j'étais il n'y a pas longtemps au Salon de l'agriculture, parce qu'on y a un très beau stand aussi, l'ONF, pour échanger avec les gens qui passent, raconter ce que c'est que la forêt, jouer aussi des fois, présenter des outils qui nous servent pour adapter les forêts au changement climatique. Donc on essaie d'être au contact et de présenter notre métier.
Et alors, quelles sont les questions qui peuvent revenir régulièrement lors de ces rencontres ? Est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent particulièrement souvent ?
Alors, c'est vrai qu'on a été... ma récente expérience au Salon de l'agriculture, par exemple, c'est qu'on a eu beaucoup de jeunes qui cherchaient à rentrer à l'ONF. Alors, c'est vrai qu'à l'ONF, on est sur l'ensemble de la France, on est à peu près 8000 répartis sur toute la France. Et on a au sein de l'ONF, il y a des métiers très, très variés. Ça peut aller... Alors, évidemment, le métier classique auquel on pense, c'est celui de technicienne ou de technicien forestier territorial. Donc le métier vraiment de terrain, l'équipe que j'encadre par exemple, qui eux vont vraiment concrètement mettre en œuvre la gestion forestière à l'échelle des forêts et être l'interlocuteur des communes pour les forêts communales. C'est vraiment le maillon de terrain qui va mettre en œuvre et rassembler tous les enjeux. La partie production de bois, la partie environnement, la partie paysage, la partie gestion des usages sur la forêt. J'en oublie, c'est certain, parce qu'on a une forêt très multifonctionnelle. Donc ça, c'est bon pour rentrer à l'ONF. Généralement, ce genre de profil, on attend un BTS gestion forestière. Donc ça, c'est une des clés d'entrée. Mais en fait, on a toute une série de profils divers, puisque au sein de l'ONF, on a beaucoup de services. On a le service, par exemple, défense des forêts contre l'incendie, avec une spécificité vraiment sur ce sujet-là. Le service restauration des terrains de montagne, dont on avait aussi un petit peu parlé la dernière fois, où là, on a, par exemple, des gens qui vont s'intéresser à des phénomènes physiques quasiment, hein, donc des spécificités vraiment très techniques. Pour les coulées, enfin voilà, pour voir éviter les coulées de boue et tout ça, on a de l'hydrogéologie, c'est très pointu. On a aussi des gens qui vont mettre en œuvre les travaux, donc nos ouvriers forestiers, donc là qui vont être sur le terrain aussi tous les jours et qui vont pouvoir mettre en place des limites de forêt, qui vont pouvoir faire de l'entretien de bord de route, des routes forestières, qui vont aussi faire les plantations, mettre en œuvre les plantations. Donc voilà, encore un type de métier. Et puis, on a des commerciaux aussi pour vendre le bois, puisque l'ONF est engagé à valoriser les bois et à les valoriser dans des filières locales. Donc, on a aussi ce volet-là. Et puis, on a tous les services support aussi, évidemment, sans qui voilà, les établissements ne tournent pas. Et puis la spécificité peut-être de l'établissement, c'est qu'on a en plus des forestiers naturalistes. Voilà, on en a 260 sur l'ensemble de la France, avec 6 réseaux. Alors, si je peux me permettre de vous interroger, de tourner dans l'autre sens la question, c'est par exemple, est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'un herpétologue ?
Pas du tout.
Pas du tout. Un entomologue ?
Entomologue, est-ce que ça aurait pas un lien avec les insectes ?
Tout à fait.
Ah, ça, c'est bon.
Alors, l'herpétologue, il va s'occuper et il va s'intéresser aux reptiles et aux amphibiens. Il va être spécialiste sur les reptiles et les amphibiens. L'ornithologue, on connaît assez bien, c'est celui qui s'intéresse aux oiseaux. On va avoir aussi des mycologues. Est-ce que ça vous parle ?
Non plus.
Et c'est les champignons.
Ah oui.
Voilà. Donc ça aussi, c'est toute une gamme de choses qu'on voit finalement peu, parce que beaucoup de choses se passent dans le sol, mais qui sont particulièrement importantes pour la biodiversité en forêt. Après, on a des gens spécialisés dans les mammifères. Par exemple, des chiroptérologues qui s'occupent des chauves-souris. Voilà. Donc voilà, tous ces gens-là ont vraiment des spécialités très pointues. Et vont venir apporter cette finesse d'observation à notre gestion, on va dire, de la forêt. Donc c'est voilà, c'est passionnant. On a vraiment des profils très très divers.
Et alors, pour faire le lien avec le rappel qu'on faisait en début d'émission sur l'émission de l'ONF, vous précisiez que vous étiez responsable de l'unité territoriale de Sisteron, donc à coordonner des techniciens, techniciennes forestiers. Ça consiste en quoi une unité territoriale ? Comment est structurée un petit peu l'ONF si on veut se repérer sur le plan national ou plus local ?
Alors, à l'échelle nationale, il y a une direction générale qui se trouve à Maison-Alfort, à côté des vétérinaires. De l'école historique des vétérinaires, dans un beau bâtiment bois d'ailleurs, magnifique. Ensuite, c'est décliné en direction territoriale. Donc la direction territoriale, elle, par exemple, nous, elle est plus large que la région, puisqu'elle prend vraiment Occitanie et puis Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on va vraiment des Pyrénées aux Alpes, donc c'est un grand secteur. Et puis en dessous, c'est redivisé en agences qui peuvent être bi ou tri départementales ou départementales, comme c'est le cas pour les Alpes de Haute-Provence. Les Hautes-Alpes aussi sont une agence départementale. Voilà. Donc ça, c'est l'échelle départementale. Et puis, on redécoupe cette échelle départementale en unités territoriales. On y est. Et là, on en a 5, par exemple, sur l'agence. Une Manosque, une Sisteron, une Barcelonnette-Seine, une Digne et une PIA3V. Voilà. Et puis au sein de ces unités territoriales, si on affine encore un peu, on tombe à l'échelle du triage, qui est un ensemble de communes et de forêts qui vont relever d'un seul technicien ou d'une seule technicienne. Donc c'est là où on revient sur vraiment un interlocuteur qui met en œuvre à l'échelle du triage. Voilà, pour tout ça, pour être au plus près de la réalité de la forêt et de ce qui se passe dedans, quoi.
Oui, c'est vrai que vous étiez venu déjà nous parler de ces missions. C'était en décembre dernier. On avait évoqué les trois priorités qui étaient la production de bois, la protection de la biodiversité et également l'accueil du public. Alors, on a un peu parlé de la production de bois tout à l'heure, l'accueil du public, évidemment, avec toutes ces animations. Est-ce que vous voudriez en profiter pour développer également sur la protection de la biodiversité qui fait partie de ces trois piliers ?
Bien sûr, c'est extrêmement important. En France, on a globalement fait le choix de ne pas complètement séparer les espaces. C'est par exemple dans les pays du Nord, souvent vous avez les espaces qui sont complètement dédiés à la biodiversité, d'autres complètement dédiés à la production, mais ce n'est pas les mêmes espaces. Non, on a ce qu'on appelle des forêts multifonctionnelles, et c'est encore plus vrai dans la région sud, où tous les usages, tous les enjeux, tous les risques aussi vont se retrouver au même endroit. Donc on va avoir à gérer l'ensemble de ces éléments-là et à le faire au mieux. Pour une gestion durable. Donc on prend en compte évidemment la biodiversité. Pour vous citer rapidement des exemples, on va garder ce qu'on appelle des arbres bio, des arbres que vous pourrez trouver en forêt avec un triangle inversé indiqué sur le tronc. Ce sont des arbres qu'on va garder parce qu'ils ont vocation à accueillir de la biodiversité, soit parce qu'ils vont avoir des cavités, ou par exemple une zone creuse, un trou de pic. On trouve aussi souvent dans nos forêts issues de taillis au pied des cavités avec de l'eau. On va avoir des branches mortes, on va avoir des décollements d'écorce. Et il faut savoir que tout ça, ce sont des habitats potentiels pour la biodiversité. C'est-à-dire qu'une petite chauve-souris, ça peut aller se cacher derrière un décollement d'écorce. Dans ce bois qui se décompose ou qui est troué, on a toute une série d'insectes, de différentes faunes qui va être très importante pour la biodiversité. Donc on va garder ces arbres-là, soit vivants avec ces micro-habitats, soit morts, parce que ce sont, ils ont déjà basculé côté mort. Mais on dit que 25% de la biodiversité en forêt dépend de ces arbres-là, de ces arbres morts ou ces naissants. Donc c'est extrêmement important de pouvoir les garder. C'est vraiment pour la santé de la forêt même, extrêmement important. Puis ça permet aussi un retour au sol des différents éléments que les arbres ont pu tirer du sol. Donc pour la fertilité même de la forêt, c'est important. Donc ça c'est un des exemples, c'est garder ce qu'on appelle ces arbres bio partout où on va passer quand on fait de la gestion, quand on va faire une coupe. Et puis on a aussi des zones où on va carrément garder des îlots de sénescence. Donc là c'est plus l'arbre qu'on garde, mais c'est un groupe d'arbres ou une petite surface de forêt qu'on va effectivement ne plus toucher et laisser vieillir de manière naturelle. En fait l'idée c'est d'arriver à ce qu'on appelle une trame. Parce que entre ces différents arbres individuels au sein des parcelles, plus ces différents îlots, on crée un réseau et les espèces vont pouvoir circuler au sein de ces réseaux-là. Parce qu'elles se déplacent rarement beaucoup, ces espèces qui sont dédiées. Voilà, c'est un exemple de la prise en compte de la biodiversité, mais c'est aussi garder la diversité des espèces. Quand on trouve notamment en plus des arbres type, alors que nous on appelle des fruitiers, quoi. Ce ne sont pas des arbres fruitiers qu'on trouve dans le cœur de la Durance, mais qui vont être des merisiers, donc des cerisiers sauvages par exemple. Voilà, des arbres qui vont fructifier et amener des fruits pour la faune et notamment les oiseaux. C'est important de les garder. Donc on garde cette diversité d'espèces aussi pour la biodiversité.
Alors si on se met à la place de public jeune ou moins jeune qui s'intéresserait à toutes ces différentes missions, qu'est-ce qu'il y a comme différentes pistes ? Où est-ce qu'on peut se renseigner si on veut en savoir plus à ce sujet ?
Alors déjà, pour voir si ça vous plaît, si le sujet vous plaît, je vous invite à venir aux Journées internationales des forêts. C'est l'occasion de discuter avec des gens dont c'est le métier et qui le vivent au quotidien. Donc c'est déjà une première étape peut-être pour... pour savoir si voilà, la petite étincelle d'intérêt peut aller plus loin. Et puis après, ben, ça va dépendre de ce qui peut intéresser les gens. Il va y avoir des formations spécifiques. Je vous disais BTS, assez typique, BTS gestion forestière pour techniciens ou techniciennes forestiers. Ça peut être des diplômes d'ingénieur pour responsable d'unité territoriale. Et vous allez trouver aussi vous trouvez sur le site de l'ONF, dans la rubrique ONF recrute, l'ensemble de nos offres, les offres de stage aussi. On prend aussi des apprentis. Donc du coup, voilà, c'est vrai on a souvent beaucoup de demandes de stage et on ne peut pas toujours toutes les satisfaire, mais on essaye d'accueillir quand même des gens pour développer leur fibre forestière.
Et oui, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir l'occasion de rencontrer les personnes, parce qu'on peut se faire une idée. Déjà, on peut ne pas savoir que ça existe. Donc ça permet de savoir tout ce qui existe et de venir se confronter un peu à la réalité de terrain. Là, c'est l'occasion. Si on veut retrouver les informations concernant ces 10 jours autour de la Journée internationale des forêts, c'est aussi sur le site internet de l'ONF qu'on va les retrouver.
Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, on peut tout retrouver. Et puis, vous pouvez retrouver tous les éléments aussi, tout plein d'éléments dont je parlais sur la biodiversité. Dans les éléments que j'ai pas cités, au-delà de l'îlot, on peut avoir encore plus gros des bouts de forêt qui sont mis aussi en protection, qui s'appellent des réserves de biologique intégrale ou dirigées selon il y a des petites subtilités. Vous pouvez retrouver tout ce qu'on peut faire justement l'accueil des différents usages en forêt, parce qu'on a quand même aussi du loisir, on a aussi spécifiquement du pastoralisme, il y a aussi de la chasse. Je rappelle pour ce qui est du loisir en forêt, petite touche où là je rigole un petit peu moins, c'est que la circulation des engins à moteur en milieu naturel est interdite parce que ça abîme les sols et puis ça dérange la faune. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est très très vigilant. Puis quand on arrive l'été, par rapport à l'accueil du public, on est aussi très vigilant sur la partie apport du feu en forêt. Donc pour l'instant, on se pose pas trop la question parce que on a l'impression que tout va bien parce qu'il a plu, mais dès qu'on approche de l'été, vraiment l'apport de feu à proximité des forêts, c'est absolument interdit. Donc le barbecue, c'est non. Mais par contre, si vous respectez les règles de bonne conduite, ramasser revenir avec ses déchets, pas les laisser en forêt et pas amener de feu en forêt, évidemment. Ça fait toujours plaisir de s'y promener. On est les premiers à aimer être en forêt, donc on comprend.
Oui, c'est vrai qu'il y a des périodes particulièrement... on cite souvent la période estivale où il y a des vigilances particulières à avoir. Est-ce que le printemps, c'est l'occasion de temps fort en particulier aussi?
En fait, de manière générale, il faut déjà rester sur les sentiers qui sont balisés. Parce que, par exemple, au printemps, là, vous allez avoir aussi l'arrivée bientôt de toutes les nidifications d'espèces protégées. Vous allez risquer de déranger la faune qui est en train de se reproduire ou de mettre bas. C'est vraiment pas le moment de se balader partout en forêt. De toute manière, de manière générale, c'est sur les sentiers qui sont balisés et pas ailleurs, parce que c'est pas bon non plus pour la forêt et pour sa faune et pour sa flore.
Voilà, et donc pour en savoir plus sur le fonctionnement des forêts, on vous donne rendez-vous donc du 19 au 28 mars, en tout cas pour les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. On peut en profiter aussi pour citer une exposition à Salagon. Une exposition, donc vous avez le temps pour aller la voir puisque c'est encore jusqu'au 15 décembre 2026, en forêt, de la gestion à l'évasion. Qu'elles soient mythifiées, protégées ou menacées, les forêts représentent un enjeu essentiel pour nos sociétés. C'est une exposition qui évoque l'évolution de nos relations à la forêt à l'époque contemporaine avec les photographies de Vincent Munier en collaboration avec le musée des Confluences. Voilà, c'est donc à Salagon jusqu'au jusqu'au 15 décembre 2026, une expo que vous nous conseillez, Camille.
Oui, c'est vrai que c'est une exposition qui est intéressante parce que justement, elle ouvre plein de points de vue. Déjà, les points de vue historiques avec l'histoire des charbonniers sur le secteur, c'est quand même une histoire assez forte. Il est aussi question de la restauration des terrains de montagne. Donc voilà, on a le point de vue historique, on a le point de vue de la gestion courante, qu'est-ce qui se passe de manière courante et comment c'est aussi encadré la gestion forestière en France. Et puis quelque chose de plus lié à quelque chose d'une relation assez spécifique à la forêt qu'on peut avoir en tant qu'humain. Et puis la beauté des photos de Vincent Munier, c'est vraiment, avec une ambiance...
C'est difficile de ne pas y être sensible.
Voilà.
Oui, Vincent Munier, donc réalisateur du documentaire Le Chant des Forêts, qui ouvre donc cette série de journées d'animation le 19 mars, donc ciné-conférence avec la projection du Chant des Forêts, c'est à Guillestre dans le 05. Et puis on vous mettra en lien toutes les autres journées d'animation, le 21, visite grand public du Clos à Seine-les-Alpes, la randonnée commentée au Cousson à Digne-les-Bains. Et ainsi de suite jusqu'au 28 mars.
On pourrait parler des heures et des heures de tout ce qui peut se passer en forêt. C'est un milieu qui n'est pas... qui n'est pas figé. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est riche, c'est ça qui est difficile aussi dans la gestion courante, puisqu'on a tendance à voir la forêt un peu parfois comme un paysage carte postale qui bouge pas. Et en fait, non, déjà la forêt en elle-même, naturellement, elle évolue. Alors, il se trouve qu'avec le changement climatique, cette évolution naturelle est un peu brutalisée, on va dire. Donc, on est obligé de l'accompagner un peu différemment. Et puis, c'est un paysage qui vit. Ce sont vraiment des milieux qui sont très complexes, qui sont très intéressants. Et puis, chez nous, qui sont très vivants, à la fois de la faune, de la flore, mais aussi de ce que les humains peuvent avoir comme relation avec. Et donc, des besoins qu'on projette aussi sur la forêt et auxquels on lui demande de répondre. C'est vraiment intéressant de voir ça et de se dire que quand on agit sur la forêt, quand on la gère, c'est jamais simple. C'est toujours complexe, c'est toujours à multifacteurs quand on travaille dedans. Et donc, l'occasion de ces journées-là, c'est de se rendre compte de à quel point on prend en compte la diversité de facteurs lors de la gestion. Et comment ensuite concrètement ça se traduit sur le terrain pour un forestier. Voilà.
Oui, donc on peut souligner la dimension non seulement ludique, culturelle, mais pédagogique aussi de ces journées. Et c'est une question que je ne vous ai pas posée avant, mais est-ce que parmi les métiers que vous avez cités, est-ce qu'on travaille beaucoup en équipe ou est-ce que c'est plutôt solitaire et est-ce qu'on est souvent en contact de la nature ou pas toujours parce que quand c'est très technique, des fois, il faut des outils.
C'est une très bonne question. Alors, il y a des métiers qui sont... alors, par rapport au bureau-terrain, déjà, il y a des métiers spécifiques qui sont beaucoup plus... bureaux, par exemple des gens qui vont faire de la cartographie sur système d'information géographique, bon ben voilà, effectivement ils vont être beaucoup devant l'ordinateur. Il y a des métiers de terrain comme technicien ou technicienne forestier, alors ils vous diront qu'ils passent bien trop de temps devant l'ordinateur par rapport à ce qu'ils aimeraient, parce qu'effectivement, les outils ayant beaucoup évolué, il y a aussi pas mal de choses qui se traitent sur l'ordinateur, mais ils sont quand même aussi beaucoup sur le terrain. Et ils travaillent à la fois en solo, parfois, notamment sur leur triage, ils travaillent beaucoup individuellement, mais aussi beaucoup en équipe, puisqu'en fait, généralement, deux fois par semaine, on a des opérations qu'on dit collectives, sur lesquelles on va faire justement la désignation des arbres à couper, par exemple, ou des repérages de gîtes pour une espèce en particulier. Donc ça, ce sont des opérations qu'on mène en groupe, donc il y a aussi le collectif. Et puis après, par exemple, sur mon métier, il y a quand même un petit peu d'ordinateur, on va bien le dire, un petit peu plus, pas mal de management, donc il y a aussi la relation humaine, de relationnel aussi avec l'extérieur, et puis quand même du terrain pour aller avec les équipes, donc voilà, ça va vraiment dépendre des différents types de terrain, et il y a quand même à la fois le côté en solo et en équipe, parce qu'on est... On n'est pas des îles, je ne sais pas comment dire, déconnectées du reste. On fait partie d'un tout, quoi.
Avec une mise en lien aussi avec les autres agences au niveau national ou on est vraiment ciblé sur du local?
Alors, on travaille quand même déjà beaucoup à l'échelle locale. On a quand même aussi beaucoup de liens. C'est vrai que je l'ai peu évoqué, mais il y a le lien déjà de travailler avec tous les services au sein de l'ONF. Mais il y a aussi travailler, et c'est indispensable, et c'est aussi le cœur de notre métier, avec les communes, puisque en forêt communale, on est directement en lien avec eux. On est le partenaire privilégié des communes. Ça peut être aussi les intercommunalités, ça va être aussi les usagers de la forêt, les éleveurs, les chasseurs, les associations de randonneurs, par exemple. Enfin, vraiment, les intercommunalités, on est finalement en contact avec beaucoup de personnes.
Et si vous voulez les rencontrer, ces personnes, ou en tout cas une partie d'entre elles, eh bien, comme vous l'avez compris, on vous donne rendez-vous pendant ces 10 jours du 19 au 28 mars, où donc petits et grands pourront partir à la découverte de la forêt aux côtés des forestiers. Ces rendez-vous sont l'occasion de mieux comprendre comment la forêt est gérée, protégée, adaptée, tout en partageant des moments conviviaux en pleine nature. Merci beaucoup Camille Loudin-Hamon.
Merci, je vous attends en ce qui me concerne à Sisteron le 25 après-midi, mercredi 25 après-midi. Pensez à vous inscrire sur le jeu de piste. On vous attend avec impatience et avec plaisir.
Merci beaucoup. Toutes ces informations sont évidemment mises en ligne avec l'article consacré à cette émission sur fréquencemistral.com. Merci à vous d'avoir suivi ce magazine. On vous souhaite donc de belles découvertes et de beaux moments d'échange en forêt pour ce printemps 2026. Merci et bonne journée.
Merci.
Au revoir.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.